Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Nous connaissons tous Mère Teresa de Calcutta, Sainte Thérèse de Calcutta. Et elle nous exhorte ainsi, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, ta dernière messe, ton unique messe. Cette exhortation vaut pour chacun de nous, car chaque fois que nous participons de l'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne comme pour la première fois, comme si nous recevions le Seigneur pour la première fois. En cela, chaque communion que nous faisons est toujours notre première communion. C'est l'aujourd'hui de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et aujourd'hui, Hippolyte va recevoir pour la première fois Jésus dans son cœur. À chaque Eucharistie, nous célébrons la passion, la mort, la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant que nous pouvons le recevoir dans l'Eucharistie. Bien, célébrons le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde, de l'amour de Dieu, de la vie du Seigneur et que nous sommes bien pécheurs par rapport à ce don de Dieu, cet amour de Dieu.
Lecture du livre de la Sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment, « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis ils pénétrèrent là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelle est donc la grâce de ce jour? Il me semble qu'elle est dans le toucher de Dieu. Toucher de Dieu par l'Eucharistie et dans l'Évangile par le relèvement de la fille de Jaïr et la guérison d'une femme souffrante. Aujourd'hui, je vous propose de poser un regard sur 3 réalités. Les faits dans l'Évangile, puis sur l'histoire de la vie du psalmiste. Pour nous introduire dans ce regard, il nous faut entendre l'auteur de la sagesse. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé l'homme pour une existence impérissable parce qu'il a fait de l'homme une image de ce qu'il est en lui-même. Dieu veut la vie de l'être humain qu'il a créé. L'Église enseigne que nous avons le devoir de saisir et de comprendre quelque chose de Dieu dans sa parole, son action et les effets de ceci. Or, la liturgie de ce jour nous donne de méditer trois actions, sans équivoque, de Dieu. Trois effets, trois réponses ou guérisons à des démarches progressives dans une relation de vie et de foi. Première réalité, un regard sur l'Évangile. À une pauvre femme épuisée, bien malade, Jésus rend la santé et le bonheur de vivre. À une jeune fille inerte et sans vie, il redonne vie et en même temps une joie immense à ses parents et à sa famille. Dans ces deux situations, ce qui a poussé les personnes à faire une démarche pour obtenir la guérison, c'est bien l'urgence, la douleur, l'angoisse et la peur de la mort et de la séparation. Mais entre ce premier désir naturel de vivre et la guérison obtenue, il y a cet engagement personnel de transformation, de croissance intérieure, sous le regard et l'esprit de Jésus, qui aboutit à une confession de foi explicite en Jésus. Comme premier enseignement pour nous concrètement, il s'agit d'incarner dans notre vie naturelle mortelle une vie de contact avec l'humanité de Jésus, une vie spirituelle de foi, de grâce impérissable, c'est-à-dire une vie sacramentelle. Et la vie sacramentelle exige une relation, elle est pratique. La troisième guérison nous est présentée sous forme d'ex voto. Un ex voto est un acte de reconnaissance pour une grâce obtenue. Et cette guérison concerne la personnalité du psalmiste. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Cet homme, le psalmiste, que lui est-il arrivé? Il y a trois étapes dans sa vie. Issu d'une famille princière, il a connu une brillante ascension sociale et humaine, puis frappé d'une épreuve fulgurante, violente, il se trouve face à la mort, et devant la mort, il connaît une renaissance spirituelle et un redressement humain complètement imprévu. Voici son histoire, riche d'enseignements. Il définit la première partie de sa vie par ces mots « Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. » Au sommet de sa carrière, avec le pouvoir, le savoir et la richesse, il s'était bâti une demeure fortifiée sur la hauteur, sur sa montagne, et une fois installé, il déclare « Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. » Voilà son péché de présomption, d'un égoïsme imaginaire, « Je suis comme un Dieu. » Il s'agit d'un monologue, « Moi, je me disais. » Il s'immobilise dans le temps et l'espace, « Rien jamais ne m'ébranlera. » Il s'identifie à la stabilité du rocher, « Ma puissante montagne. » Il est sa seule référence. Ce faisant, il s'établit résolument dans l'horizontalité. Il oublie celui qui est au-dessus de lui, Dieu. Il ignore le reste des hommes au-dessous de lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme souvent, il arrive ce qui n'est pas prévu. Il va subir la loi de la nature, selon le célèbre adage, « Dieu pardonne toujours, les hommes quelquefois, la nature jamais. » S'étant coupé de toute relation, il s'est enfermé dans son propre piège. Lui qui se croyait d'une intelligence et d'une volonté supérieure, il sombre dans une dépression mortelle. Il devient son propre épouvantail. Et il confesse « Je descendais dans la fosse et la nuit obscure. » S'étant coupé de Dieu, Dieu s'était retiré de lui. Et il dit, « Tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. » Il deviendra la risée des hommes qu'il méprisait. De la hauteur de sa puissante montagne, il se trouve projeté dans la poussière de l'abîme. Sa suffisance, sa sécurité, son pouvoir ne lui sont plus d'aucune utilité. Là, il faut se souvenir de la mise en garde de saint Paul aux Corinthiens. Les mains fermées sont l'expression d'un cœur endurci. Décentrez-vous de vous-même, centrez-vous sur le Christ, lui qui de riche est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Et comment cet homme va-t-il sortir de son monologue, de son horizontalité? Il ne passe du monologue au dialogue avec Dieu que par une rupture, l'épreuve psychique de la rencontre avec la verticalité. Dans la verticalité, il y a un point bas et un point haut. Le choc le jette humainement par terre, épreuve salutaire. Là, il se souvient de Dieu, son bienfaiteur. « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. » Il va se livrer, à ce moment-là, un véritable chantage, marchandage avec Dieu. C'est le verset qui manque dans le psaume, où il dit ceci, « Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente sur la tombe, te loue-t-elle dans la poussière, Seigneur ?» Sauvé, il rend grâce. Annonce-t-elle ta vérité, ton amour, Seigneur, ma mort? Et enfin, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre. Tu as changé mon deuil en une danse. La danse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle exprime la communion. Elle a cette faculté de faire sortir de l'immobilisme pour réinvestir l'espace et le temps par la joie. Comme le Christ avait saisi la main de la jeune fille, Talitha cum, il l'a fait se relever. Pour conclure, quelle leçon spirituelle pour nous? Le psalmiste, dans son orgueil, se prenait pour une montagne. L'humiliation l'a plongé dans la nuit et lui a fait manger la poussière. Mais par le repentir et la confiance, Dieu l'a rétabli dans la lumière divine, la seule vraie gloire. Pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité, car en lui, tout est grâce. Alors pour nous-mêmes, que nous soyons dans la situation du psalmiste, de Jaïr pour sa fille, ou encore de la pauvre femme, ou tout simplement atteint d'un mal, qu'il soit physique, psychique, spirituel, prosternons-nous devant le Seigneur comme nous le ferons au moment de la communion, afin de le toucher et de nous laisser toucher, et crions du fond de notre cœur, « Seigneur Jésus, dis-moi une parole et je serai guéri. » Amen.